journée à l'écoute de VOA.
Au micro, Idrissa Seydoudia, bonjour. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Nous vous pourchasserons et nous vous ferons payer. C'est ce que le président Joe Biden a promis hier aux auteurs de l'attentat qui, selon le dernier bilan du Pentagone, a tué 13 militaires américains et blessé 18 autres à proximité de l'aéroport de Kaboul en Afghanistan. M. Biden a aussi confirmé que la gigantesque opération d'évacuation de civils allait se poursuivre jusqu'au retrait des troupes américaines le 31 août. Jean-Roger Bion nous résumera l'allocution du président américain hier à la Maison-Blanche. Actualité oblige, l'essentiel de cette édition portera sur les événements tragiques de Kaboul. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre l'armée américaine en Afghanistan depuis 2011 et elle a été revendiquée par le groupe État islamique et rival des talibans en Afghanistan. Des milliers d'Afghans avaient continué à se masser jeudi à l'aéroport, malgré les avertissements des Occidentaux concernant une menace d'attentat. Le nouveau régime taliban, via son porte-parole Zabihullah Mujahid, a fermement condamné ces attentats à la bombe, tout en soulignant qu'ils étaient survenus dans une zone placée sous la responsabilité de l'armée américaine. Les talibans disent avoir recensé jusqu'à 20 morts et 52 blessés, mais d'autres sources évoquent un bilan bien plus lourd. Et aujourd'hui, deux ex-responsables gouvernementaux, afghans, ont donné un nouveau bilan d'au moins 72 morts. En réaction à l'attentat, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur l'Afghanistan. L'OTAN et les Occidentaux ont condamné l'attentat en soulignant qu'il ne devait pas empêcher la poursuite des évacuations massives qui ont à ce jour permis de faire partir près de 100 000 personnes. Dernière minute, le ministre de la Défense du Royaume-Uni annonce que sa mission d'évacuation se terminera dans quelques heures, tandis que l'Espagne annonce la fin ce vendredi de ses opérations d'évacuation de Kaboul. Nous aurons dans quelques instants une page spéciale sur l'Afghanistan. En attendant, au Mali et selon notre correspondant sur place, Mohamed Danyokou, l'ancien premier ministre et ex-ministre de la Défense, Soumeilou Boubey-Maiga, a été placé hier sous mandat de dépôt par la Cour suprême. Quelques heures après, l'ancienne ministre des Finances, Boiré Félicie Soko, a été à son tour placée sous mandat de dépôt à la prison des femmes de Bolé. Ces actions judiciaires sont menées dans le cadre de l'affaire dite achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition. Au Nigeria, les derniers des dizaines d'élèves d'un séminaire islamique de l'Ouest, enlevés il y a près de 3 mois, ont été libérés, a annoncé hier le directeur de l'école. 6 d'entre eux sont morts en captivité et 15 autres avaient réussi à s'échapper en juin. Une série d'attaques et de représailles à caractère ethnique ont fait plus de 210 morts la semaine dernière dans la région de l'Oromia, dans l'ouest de l'Éthiopie, a affirmé jeudi la Commission éthiopienne des droits humains. Les États-Unis s'apprêtent à envoyer plus de 2 millions de doses de vaccins à l'Algérie, au Ghana et aussi au Yémen, a annoncé la Maison-Blanche avec ses dernières cargaisons issues du surplus du stock américain. Le nombre total de doses livrées par les États-Unis à l'Afrique s'élèvera à plus de 25 millions. Moins de 2% de la population à travers le continent est entièrement vaccinée. En République démocratique du Congo, le gouvernement a dévoilé hier un plan directeur d'industrialisation à l'horizon 2040 d'un coût de 58 milliards de dollars qui prévoit des infrastructures devant relier différentes régions de ce géant d'Afrique centrale, a-t-on appris de sources officielles. Le plan vise à atteindre l'objectif de l'émergence de la RDC d'ici 2030-2040, a déclaré Julien Paluku, ministre de l'Industrie.
La suite de nos informations. Suite à l'attentat perpétré par des kamikazes du groupe djihadiste État islamique hier contre la foule des Afghans massés à proximité de l'aéroport de Kaboul, faisant des dizaines de morts, dont au moins 13 soldats américains, le président Joe Biden a promis de pourchasser les auteurs de cet attentat. Il a aussi confirmé que la gigantesque opération d'évacuation allait se poursuivre jusqu'au retrait des troupes américaines le 31 août. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Nous allons vous pourchasser et vous faire payer, a affirmé le président Joe Biden aux auteurs de l'attaque, la plus meurtrière contre l'armée américaine en Afghanistan depuis 2011, qui a été revendiquée par le groupe État islamique. Le président a ordonné aux responsables militaires de développer des plans pour frapper les cibles, la hiérarchie et les installations du groupe État islamique en Afghanistan. Deux attentats suicides ont fait plus d'une dizaine de morts et de blessés parmi les soldats américains. Les secouristes ont recensé au moins 20 morts et 52 blessés dans la foule qui attendait à l'aéroport de Kaboul pour se faire évacuer. D'autres sources évoquent un bilan plus lourd pour ce premier attentat depuis le retour au pouvoir des talibans le 15 août. Malgré ce lourd bilan, le président américain a affirmé que les évacuations vont se poursuivre. Selon lui, l'Amérique ne se laissera pas intimider. Il a aussi réitéré qu'il va respecter la date butoir du 31 août pour le retrait de toutes les troupes américaines d'Afghanistan, malgré les critiques, y compris au sein de son parti, qu'il appelle à rester plus longtemps si nécessaire pour achever l'évacuation.
13 militaires américains ont été tués et 18 autres blessés dans les attentats suicides de Kaboul, selon le dernier bilan du Pentagone, qui précise que, malgré tout, les évacuations d'Afghanistan vont donc se poursuivre. Les précisions de John Linden.
Deux djihadistes considérés comme appartenant au groupe État islamique se sont fait sauter à Abeghet, suivis par des djihadistes armés qui ont fait feu sur les civils et les militaires, a précisé le général Kenneth McKenzie, chef du commandement central américain en charge de l'Afghanistan. Il a également prévenu que de nouveaux attentats étaient possibles. Nous continuons de mener à bien notre mission numéro un, qui est d'évacuer autant d'Américains et d'autres personnes que possible d'Afghanistan, a-t-il déclaré. Le département d'État a pour sa part affirmé jeudi être en contact avec le millier d'Américains qu'il pense encore être en Afghanistan. Deux explosions meurtrières ont en effet frappé jeudi les abords de l'aéroport de Kaboul, où étaient massés des milliers d'Afghans voulant quitter le pays tombé aux mains des talibans. Une explosion a eu lieu près de Abeghet, une des portes d'accès de l'aéroport, et l'autre à proximité de l'hôtel Baron, à 200 mètres de là. Puis, une nouvelle puissante explosion a été entendue hier soir à Kaboul, mais les détails et le bilan ne sont pas précisés. Des responsables américains et alliés avaient pourtant fait état la veille de menaces crédibles d'attentats autour de l'aéroport de Kaboul, où un gigantesque pont aérien est organisé depuis le 14 août pour évacuer des milliers de personnes d'ici le 31 août.
Concernant cette nouvelle explosion dont parle John et qui a secoué Kaboul jeudi vers minuit, le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a indiqué peu après sur Twitter qu'elle n'était pas due à une attaque mais à des destructions d'équipements par l'armée américaine à l'aéroport, ce que celle-ci n'a pas confirmé dans l'immédiat. L'ex-président américain Donald Trump, très critique des décisions de son successeur Joe Biden en Afghanistan, a dénoncé hier une tragédie qui, a-t-il dit, n'aurait jamais dû avoir lieu. Certains démocrates ont critiqué ces derniers jours le président américain parce qu'il s'en tenait à la date butoir du 31 août. Si certains continuent d'appeler l'armée à rester aussi longtemps qu'il le faudra, la majorité des parlementaires de son parti font bloc derrière M. Biden. Du côté républicain, le ton est tout autre et certains proches de M. Trump appellent même, comme lui ces derniers jours, M. Biden à démissionner. Pour rappel, c'est M. Trump lui-même qui avait négocié en février 2020 un accord avec les talibans prévoyant un retrait total des forces étrangères encore plus tôt, au 1er mai 2021. Déjà contre cette annonce de retrait, le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a tonné ce jeudi, cette attaque meurtrière offre le rappel le plus clair possible que les terroristes n'arrêteront pas de combattre les États-Unis juste parce que nos politiques se lassent de les combattre. Les réactions se sont multipliées dans les capitales étrangères après les attaques à l'aéroport de Kaboul, attentats qui ont été condamnés un peu partout à travers le monde. Le point avec Abdulrahman Diab.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a tenu une réunion de crise, a indiqué que la Grande-Bretagne allait poursuivre ses évacuations en dépit de ce qu'il qualifie d'attaque barbare. Clairement, ce que montre cette attaque, c'est l'importance de continuer ce travail de la manière la plus rapide et la plus efficace possible dans les heures qui nous restent. C'est ce que nous allons faire, a-t-il dit. Même son de cloche du côté de Paris, l'opération se poursuit et se poursuivra tant que tous les militaires français n'auront pas quitté l'Afghanistan, a déclaré le porte-parole de l'état-major français. Paris a prévu de terminer ses opérations d'ici ce soir, tout comme la Belgique. L'Italie condamne fermement les attaques à l'aéroport de Kaboul, a écrit le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio sur Twitter. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez condamne l'attaque et dit que Madrid s'efforce d'évacuer le plus de personnes possible d'Afghanistan. Le gouvernement néerlandais annonce l'arrêt des évacuations de Kaboul dans ce que le Premier ministre Mark Rutte qualifie de terrible développement. La Pologne, la Hongrie et le Canada ont tous entièrement bouclé leurs opérations.
Parmi les autres réactions, la Turquie a condamné une attaque haineuse et le Premier ministre israélien Naftali Bennett, actuellement en visite aux États-Unis, a exprimé le profond chagrin de son pays pour la mort d'Américains à Kaboul. L'Arabie saoudite a de son côté, je cite, « condamné fermement l'attaque terroriste meurtrière. Cet acte haineux viole toutes les valeurs morales et humanitaires ». L'Égypte a condamné la double attaque terroriste et renouvelé sa solidarité dans le combat contre toutes les formes de terrorisme, de violence et d'extrémisme. La Jordanie a condamné les attentats et dénoncé le terrorisme qui reste une menace dangereuse. Le Qatar a dénoncé l'attaque et rejeté la violence et le terrorisme, quelles que soient les motivations et les causes. La Minute Éco, Rosine Mounézéro.
En Afrique du Sud, le marché du cannabis offre de nombreuses possibilités économiques et de création d'emplois. Le département de l'agriculture vient de rendre public un plan directeur pour le développement du cannabis, notamment pour la production et la commercialisation de la feuille. Ce plan vise également une réforme législative pour attirer des investissements étrangers et assurer la promotion de cannabis à but récréatif et médical. La Cameroon Telecommunications Camtel, opérateur historique des télécoms, vient de lancer sa nouvelle marque Ombrelle, sous laquelle tous les produits Camtel seront désormais commercialisés, que ce soit dans le domaine du mobile, du fixe ou du transport. Camtel va rester le nom de l'entreprise. Judith Ya Sandey, la directrice générale, estime que le lancement de cette marque va induire la qualité de service, très souvent décriée par la clientèle et les partenaires. L'Angola veut jouer un rôle essentiel dans l'exportation des minerais de cuivre et de cobalt en provenance de ses voisins, la Zambie et la RDC, dont les volumes de production ne sont pas des moindres. Un projet de 1344 km d'infrastructure vers le port de Lobito est essentiel pour l'exportation des minerais. En attendant la pleine exploitation de cette ligne, les ports de Durban en Afrique du Sud et de Dar es Salaam en Tanzanie assurent l'exportation de ces matières premières.
Merci Rosine. Et maintenant les sports avec Bagassi Koura.
Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, a dévoilé ce jeudi sa liste de 30 joueurs retenus pour affronter le Mozambique et le Cameroun à l'occasion des deux premières journées des éliminatoires du Mondial 2022. Les 3 et 6 septembre seront Foot Afrique. Cette liste est marquée par les absences de Nicolas Pepe d'Arsenal et Wilfried Zaha de Crystal Palace, possiblement retenus par leur club, même si les autres joueurs de Première Ligue comme Serge Aurier de Tottenham et les mancuniens Eric Bailly et Amad Diallo sont bien là. On note le grand retour de Jean-Michel Seri de Fulham, rarement appelé depuis la CAN 2019, et présent aux côtés des cadres comme Gervinho, Gradel, Kessié, Seri Dié, Corné Boga et Haller. Toujours dans le cadre de ces éliminatoires du Mondial 2022, on connaît la liste des aigles du Mali convoqués pour affronter le Rwanda et l'Ouganda. Ce jeudi, donc, le sélectionneur Mohamed Magasuba a révélé 28 noms. Des précisions avec notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré.
4 gardiens de but, 7 défenseurs, 8 milieux de terrain et 9 attaquants. Parmi les 28 joueurs, il y a 2 du championnat national du Mali. Ils sont 6 nouveaux joueurs qui font leur entrée dans le groupe. 5 joueurs de champ et 1 gardien de but. Le Mali joue le mercredi 1er septembre 2021 et le lundi 6 septembre 2021. Si le match contre le Rwanda sera délocalisé au Maroc, parce que le stade du 26 mars de Bamako a été suspendu par la CAF, au deuxième match, le Mali sera reçu par l'Ouganda. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Oui, tirage au sort de la Ligue des Champions. Cette année encore, Manchester City va croiser le Paris Saint-Germain après le tirage au sort de la phase de poule ce jeudi à Istanbul, qui a également prononcé des chocs Real Madrid et Inter Milan, le Bayern Munich FC Barcelone. Parmi les autres affiches, Chelsea, le tenant du titre, va croiser la Juventus et Manchester United, son bourreau de la dernière finale de Ligue Europa, Villarreal. D'autres prestigieuses retrouvailles sont au programme, par exemple entre le Real et l'Inter, une affiche qui fut la finale de la Coupe des Champions en 1964, remportée par les Italiens 3-1. Le transfert pourrait bien se dérouler aujourd'hui. Le Real Madrid et le PSG négocient autour du transfert de Kylian Mbappé après la formulation d'une deuxième offre pour l'international français de la part des Merengues. Selon des informations du quotidien L'Équipe, le club madrilène propose 170 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus, soit 180 millions au total. C'est la somme qu'avait dû payer le club de la capitale pour s'offrir les services de Mbappé en 2017. Lorsqu'il était encore à Monaco. Selon le site internet du journal sportif espagnol Marca, la conclusion du transfert serait imminente et son annonce pourrait intervenir aujourd'hui. Plus tôt dans la semaine, la Maison Blanche avait formulé une première proposition à hauteur de 160 millions au PSG qui n'avait pas donné suite, le directeur sportif Leonardo la jugeant insuffisante.
Merci Bagassi. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, l'ancien Premier ministre et ex-ministre de la Défense, Soumeilou Boubey Maïga, a été placé sous mandat de dépôt par la Cour suprême. Quelques heures après lui, c'est l'ancienne ministre des Finances, Bouaré Fili Sissoko, qui a été à son tour placée sous mandat de dépôt à la prison des femmes de Bolé. Ces actions judiciaires sont menées dans le cadre de l'affaire dite « achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires ». Le procureur général de la Cour suprême du Mali estime que le dossier concernant M. Maïga n'était pas clos alors que le procureur du tribunal de la commune 3 de Bamako avait auparavant classé l'affaire sans suite. La loi stipule que les anciens premiers ministres jouissent du privilège de juridiction. En l'absence de la Haute Cour de juridiction, comment la justice malienne entend-elle gérer ce dossier ? Modibo Dambélé a joint le docteur Yacouba Koulibaly, enseignant, chercheur à la faculté de droit de Bamako.
Le classement sans suite est une décision administrative. Elle n'a pas d'autorité de chose jugée. Ce qui fait que les membres du ministère public peuvent revenir sur cette décision lorsqu'ils ont des nouvelles informations, des nouveaux éléments, des nouvelles preuves sur la personne ou dans l'affaire.
Est-ce que le procureur général de la Cour suprême a-t-il réagi au moment où le dossier a été classé sans suite?
Il n'a pas réagi publiquement à notre connaissance, mais il peut réagir à tout moment. Puisque c'est une décision administrative, il peut réagir à tout moment tant qu'il n'y a pas eu la prescription de l'affaire. Parce qu'en matière criminel. Si 10 ans passent alors que la poursuite n'a pas été déclenchée, l'action publique n'a pas été exercée, l'action publique sera éteinte. Puisque l'action publique n'est pas éteinte, le procureur général est en droit de déclencher la procédure.
Nous savons que le président de la République, les anciens premiers ministres et les ministres jouissent du privilège des juridictions. Et aujourd'hui, à l'absence de la Haute Cour de justice, comment la justice malienne entendra-t-elle ce dossier?
Même si la Haute Cour de justice, pour le moment, n'est pas opérationnelle, parce que la Haute Cour de justice est une juridiction chargée de juger les ministres et les présidents qui commettent des infractions dans l'exercice de leurs fonctions. En l'absence de cette Haute Cour de justice, la Cour d'assises sera saisie pour statuer sur cette affaire à la fin de l'enquête.
C'était le docteur Yacouba Koulibaly, enseignant-chercheur à la faculté de droit de Bamako, interviewé par Modibo Dambélé.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Au Bénin, la résurgence des cas de COVID-19 inquiète le gouvernement qui a multiplié les séances de sensibilisation sur le respect des gestes barrières et des mesures préventives. En quelques jours, le centre de traitement des malades s'est retrouvé débordé avec l'arrivée de malades du coronavirus. Une situation qui a poussé le gouvernement à prendre d'autres mesures restrictives pour empêcher la propagation du virus. De Cotonou, notre correspondante Ginette Fleur a Dandé.
C'est un aller-retour incessant des ambulances entre Cotonou et le centre de traitement des malades testés positifs situé à Lada, à environ 50 km de Cotonou. Durant la première semaine du mois d'août, sur 2600 tests réalisés, 170 sont déclarés positifs. Le centre de traitement reçoit chaque jour 10 à 12 patients du COVID-19. Ce nombre est en forte hausse et démontre l'urgence sanitaire actuelle, obligeant le personnel soignant à être en alerte maximale. À la date du 22 août 2021, le Bénin compte plus de 3000 cas actifs pour 12 021 cas confirmés et 127 décès.
Il est important à l'heure actuelle que nos concitoyens sachent que nous sommes en train de passer des heures très difficiles.
Dodi Ange Dossou est le directeur de la médecine hospitalière. Il parle d'une situation alarmante sur le nombre croissant de nouveaux malades et appelle la population à une prise de conscience indispensable.
Au cours des vagues passées, on avait dit le plus souvent que ce sont des sujets adultes ou les sujets ayant des comorbidités de diabète, de tension, de drépanocytose. Mais aujourd'hui, des jeunes de 29 ans, de 39 ans, de 33 ans, de 34 ans sont atteints sans être porteurs d'aucune comorbidité. Ce qui fait que toutes nos équipes sont surbookées. La alerte est maximale au niveau de tous les centres de prise en charge. La consommation d'oxygène affole. Nous sommes pratiquement à 200 bouteilles par jour. On se demande jusqu'à quand on va tenir.
On doit la flambée des cas de contamination au relâchement des gestes barrières. Les Béninois ont tout fait de banaliser le virus, prétestant d'un complot pour réduire l'humanité pour certains. Le port de masque, malgré la répression de la police, n'est pas du tout respecté. Certains ne comprennent pas une telle méprise, malgré le danger.
On dirait que le masque est devenu une fantaisie, est devenu un objet qu'on vient pour mettre. Non, c'est une erreur grave. Il ne sert à rien de baisser le masque sous le nez ou sur le menton, pensant tromper la vigilance de quelqu'un. Nous mettons les masques pour nous-mêmes et pour nos proches.
Il n'y a pas que le port de masque qui est foulé aux pieds. On assiste également à la banalisation de la distanciation sociale, le lavage systématique des mains et à une campagne de dénigrement lancée sur les réseaux sociaux contre la campagne nationale de vaccination. Le ministre de la Santé ne cesse de multiplier les sorties médiatiques pour appeler la population à une prise de conscience. Benjamin Rumpati est le ministre de la Santé.
Les vaccino-sceptiques créent chaque jour, utilisent chaque élément pour empoisonner l'atmosphère, pour faire résister de plus en plus ceux qui ont tendance à vouloir se faire vacciner. Et c'est triste, c'est malheureux. Tout le monde devient intellectuel, scientifique, écrit sa propre information, dénature totalement ce qui se passe et de fait devient coupable de meurtre. Parce que cette infodémie qui est créée, c'est ça qui entraîne ceux qui sont à l'ADA. À l'ADA, nous consommons en une journée la quantité d'oxygène que nous consommons habituellement pour des mois.
Depuis le 16 mars 2020, date de détection du premier cas de COVID-19 au Bénin, le gouvernement a pris des mesures mesures fortes pour en limiter la propagation. Mais c'est sans compter avec le scepticisme de la population qui, dans sa majorité, peine à croire en l'existence de la maladie. De Cotonou, Ginette Lua Dandé pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Coronavirus toujours au Gabon, le gouvernement a récemment ordonné la suspension de tous les tournois sportifs. Selon le ministère de l'Intérieur, la décision qui concerne aussi les activités sur les plages vise une meilleure riposte contre la pandémie au Gabon. Mais dans l'ensemble, résistance dans un pays où toutes les disciplines sportives sont paralysées depuis plus d'un an, faute de championnats nationaux. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Cette décision du gouvernement sur suspension des activités sportives pour cause de crise sanitaire liée au Covid-19 est mal perçue par le président de la Ligue de Wushu de Libreville, Armel Joe Mbogou, et président de la dite Ligue.
Nous les respections déjà avec l'ouverture effectivement des entraînements du sport collectif avec naturellement ces mesures restreignantes qui voulaient qu'on se retrouve au moins à 30. Mais qu'on vienne totalement tout arrêter, c'est un problème.
Le problème posé sur la table de discussion par les acteurs du sport, toutes disciplines confondues, est de savoir comment, dans ce contexte d'addiction des rassemblements, concilier les exigences sanitaires et la pratique des sports collectifs. D'autant que le Gabon se remet difficilement d'une récente débâcle aux Jeux Olympiques de Tokyo avec un groupe de 5 athlètes mal préparés à la compétition. Pour Dave Mobélé, analyste sportif, le mal est très profond.
Qu'on le veuille ou pas, c'est une situation aujourd'hui qui crée des incidences à tous les niveaux sur le plan de la société gabonaise aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan sportif, sur le plan de la prise en charge de ces différents acteurs qui, en vérité, ne vivent que cela. Que dire des intermittents autour de ces différentes activités sportives-là qui, aujourd'hui, ne retrouvent plus leur compte. Nous sommes tous d'accord qu'il va falloir mettre en place des mécanismes pour réguler la pandémie actuelle, mais elle ne doit pas pouvoir faire en sorte qu'on puisse arrêter tout.
Chez les footballeurs, le rêve des grandes solutions du forum de mai dernier s'est envolé. Il avait pour vocation la relance du championnat avant la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Michael Boussengue, secrétaire général adjoint de l'Association des footballeurs professionnels du Gabon.
On s'est dit qu'il faudrait que les choses changent parce qu'il y a la CAN qui arrive, les éliminatoires, et ça fait un bon nombre d'années qu'on a plus de joueurs locaux dans nos équipes nationales. Que ce soit les autorités politiques et sportives, tout le monde devrait comprendre que c'est important que les jeunes footballeurs qui évoluent au Gabon aient aussi une chance d'entrer en équipe nationale.
Dans les rédactions, les rubriques de sport sont sous-alimentées. À défaut des championnats à couvrir, les chroniqueurs font preuve d'ingéniosité. Willy Ndong est journaliste sportif au grand quotidien gabonais L'Union.
Vous n'avez pas l'actualité, vous pouvez donner à titre d'exemple une interview exclusive à Pierre-Emerick Aubameyang, qui est le meilleur joueur gabonais de quasiment de tous les temps. Tout naturellement, le lectorat est satisfait.
Le communiqué du ministère de l'Intérieur fait exception aux compétitions internationales où les participants demeurent assujettis à la présentation d'un test PCR négatif ou de la carte de vaccination contre le Covid-19. Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Sénégal, l'ancien président du Tchad, Hissène Habré, a été inhumé à Dakar ce jeudi, décédé à l'hôpital principal de Dakar après avoir attrapé le Covid-19 dans une clinique où il était interné. Monsieur Habré est donc mort pendant qu'il était en détention dans ce pays. Mais son sort est loin d'émouvoir tous les Sénégalais, nous dit notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
C'est à la mosquée Oumarienne, située sur la corniche ouest de Dakar, que la levée du corps d'Hissène Habré a eu lieu. Entre la famille, les proches et les curieux, la prière mortuaire a précédé le départ du cortège funèbre vers le cimetière musulman de Yoff. Pour certains Sénégalais, comme Ousmane Silla, le défunt chef d'État tchadien devait être inhumé chez lui.
Moi, j'aurais préféré le voir au Tchad pour qu'il puisse recevoir les honneurs et tout ce qui va avec. Parce que quoi que l'on puisse dire, c'est aussi un ancien chef d'État.
Pour Abdallah Fall, le Sénégal a une réputation qui l'oblige à faire bonne figure dans ce genre de cas. Pour lui, le fait d'inhumer Hissène Habré au Sénégal n'a rien d'extraordinaire.
Ce n'est pas la première fois qu'un ancien chef d'État est inhumé au Sénégal. Amadou Ahidjo, ancien président du Cameroun, repose ici au cimetière musulman de Yoff.
Hissène Habré a été inhumé au cimetière musulman de Yoff à Dakar. C'est dans la capitale sénégalaise qu'il a été accueilli à la chute de son régime. C'est aussi ici qu'il a finalement été jugé et condamné par les chambres africaines constituées exceptionnellement pour son procès contre ses victimes tchadiennes. Seydina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.